Avant de commencer, j'ai une annonce à vous faire de la part de nos amis libraires, à savoir que Monsieur Neil Gaiman signera bien à 5 heures et quelques ses livres, si ce n'est qu'il le fera sur la mezzanine, à l'étage, et non pas à l'espace librairie. Et ceux qui souhaitent se procurer ses ouvrages afin d'avoir une dédicace devront aller chercher le livre avant d'aller faire la queue. Bien, si nous commencions, nous avons ici une table assez riche, donc Monsieur Neil Gaiman, Gilles Francescano, donc illustrateur, responsable de l'exposition de Dave McKean, ici présente, Laurent Genefort, écrivain de science-fiction, et Tommaso Pincio, donc écrivain également italien. Et nous sommes tous là pour vous parler d'une littérature qui, ma foi, je suis sûr que ceux qui sont ici depuis quelques jours, on vous a parlé de choses très savantes, que l'on vous a abordé des questions de philosophiques, qu'on a abordé des questions littéraires, mais je suis sûr également qu'on ne vous a pas parlé des choses qui comptaient réellement, à savoir des jeunes filles en danger, des aventuriers preux, de jeunes garçons prêts à partir à l'aventure, et surtout de méchants savants fous. Tout ça, c'est l'héritage des pulps, forme littéraire américaine qui est née à la fin du 19e siècle et qui tire simplement son nom de cette pulpe de papier, ce papier de très très mauvaise qualité qui servait à imprimer et à fabriquer des livres à moindre coût. Je vous rappelle que c'était aussi l'époque où les écrivains étaient payés un cent le mot. Les pulps, c'est des tirages faramineux. On peut penser qu'il y avait certains titres qui tiraient à 500 000 exemplaires par mois. C'est un héritage considérable. Ce sont des titres mythiques. On peut penser à Amazing Stories d'Hugo Gansberg, à Weird Tales. On peut penser aussi à la somme d'écrivains qui ont fait leurs premières armes dans l'univers des pulps, d'Edgar Rice Burroughs à Robert Bloch, de Philip K. Dick à H.P. Lovecraft, et surtout penser à Tarzan, Conan, Doc Savage ou encore Zorro. Autant de héros que nous a légué cette littérature qui a disparu, et j'en terminerai là, à peu près aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, au moment où les éditeurs se sont mis à lancer des livres de poche qui, petit à petit, ont grignoté les parts de marché. Maintenant, je me tais et je me tourne vers nos invités, justement parce que j'ai deux Français, j'ai un Italien, j'ai un Anglais, et j'ai envie de commencer en leur demandant comment est-ce qu'ils ont découvert cet univers des pulps, s'ils en ont jamais lu, quelle a été leur première initiation?
My first initiation into pulps was a friend of my father's when I was about 13 years old, who told me that he'd found a box of American pulp magazines in his garage that he'd collected when he was young, and I could have them for, I think, £5, which was like not just all of my pocket money, but everything that I'd saved up. And I didn't even think twice, and I gave him the £5, and I got this big box of mostly 1940s and early 1950s, astounding science fictions and Unknown Worlds, which was my favorite, some galaxies. And there were a couple of really, really old Amazing Stories in there. And they were much larger format than the others. And they were the ones that I really understood why they were called pulps, because the paper had gone yellow and brown and was, it wasn't like this wasn't acid-free paper. This was paper they'd added extra acid to, and it wasn't going to last very long. It was just going to crumble away, which mattered less because the stories in those were terrible. They really were flat characters and mad scientists with beautiful daughters inventing big robot machines that the heroes could stop. They weren't very good. But I fell in love with the John W. Campbell period astounding science fiction, and I really fell in love with unknown worlds. It was like just for... It's probably the least famous of all of those pulp magazines. It didn't last very long, but it was its own kind of weird edge of fantasy. It's Neil Gaiman fantasy. It's the stuff that I love. It's stuff happening, weird, fantastic things happening to very normal people. And that was how I discovered authors like Eric Frank Russell. There were a lot of authors who'd never really seemed to be around much in paperback collections. But people like Eric Frank Russell, people like Christopher Anvil, a lot of these authors whose names didn't mean very much. They weren't the Robert Heinleins. They weren't the big-selling guys, but they wrote these glorious little stories, and they stuck in the memory. So it was that box that I paid £5 for.
Alors, moi, je n'avais pas vraiment prévu de parler de ma petite enfance, mais c'est assez marrant parce que, comme dit Neil, c'est aussi une histoire de carton rempli de bouquins, en fait. Avec mon frère jumeau, nous étions gardés chez donc, la même personne, et ses fils étaient plus grands. Et une fois sous le lit, on est tombé donc, sur le carton des livres, en fait. Donc c'était un peu plus proche du comics, parce que les pulps, effectivement, pour moi, c'était aussi une question de génération. Je suis tombé sur des livres un tout petit peu plus récents. Mais je rebondis sur ce que disait Neil, à savoir les jolies filles et les monstres. Et je dois quand même avouer qu'effectivement, entre Vampirella et puis La Chose des Marais, je pense que c'est ce qui a fait ensuite ce que j'ai aimé moi en littérature, que ce soit sur du Lovecraft ou ce que j'ai pu trouver au niveau du graphisme. Et c'était toujours cette... je dirais par rapport à cette découverte, c'était le fait d'être immergé immédiatement dans un monde qui mêlait aussi bien l'horreur et l'érotisme, en fait. Et je pense que ça a influencé le bonhomme pour pas mal d'années, quoi.
Oui, alors moi, comme je suis né en 68, j'ai pas connu cette période, mais en lisant les meilleurs récits de Planet Stories, de Astounding, etc., de Jacques Sadoul, qui avait réuni Jacques Sadoul dans sa collection chez J'ai lu, c'est là où je me suis dit que j'étais vraiment né trop tard, parce que c'est là que j'ai découvert les récits de l'innocence de la science-fiction première américaine. Et après, quand j'ai travaillé, la première fois que j'ai mon premier salaire à 18 ans, je l'ai passé dans l'achat de la grande anthologie de science-fiction en 36 volumes de Klein, Guamard et Eukamidis, et qui regroupait une grande partie, enfin, qui regroupait les meilleurs récits aussi des pulps et des magazines qui leur ont succédé. Donc, je suis aussi un enfant des pulps, un peu comme nous tous, quoi. Mais c'est marrant parce que Neil parlait aussi du côté de la, enfin que la SF populaire est indissociable des couvertures qui s'effritent. Et c'est vrai aussi du Fleuve Noir, Anticipation, parce que moi j'ai commencé là-dedans dans les années 80. C'était déjà la fin de la période réellement populaire. Et déjà dans les années 80, il y a les couvertures des années 50 des Fleuves Noirs d'Anticipation, elles étaient effectivement toutes jaunes, et on pouvait plus les ouvrir sans que les couvertures explosent. Et il y avait, on a eu aussi un illustrateur génial qui s'appelait Branton, René Branton, qui est l'illustrateur pulp français par excellence. Voilà. Donc voilà, ça me rappelle aussi. C'est vraiment une sacrée Madeleine de Proust, les pulps.
As an Italian, I may say that my first initiation with the pulp culture, with the author of the pulp fiction, was with the science fiction magazine we had in Italy during the 50s, the 60s, and the 70s, which is Urania, And it was a little bit different in format because it was a digest format, so it's more a pocketbook, and it had also different kind of covers, mainly did from a very good painter, from a Dutch painter called Karel Tol. Theater was actually the same. You had Ray Bradbury, Philip K. Dick, Isaac Asimov, Robert Heinlein, but the style of the publication was different, a little bit, you know, not so trash. So my first discovery with the pulp culture actually was with the movie by Quentin Tarantino, Pulp Fiction, because I was wondering what this name came from. So I started to explore this word, and I discovered the beautiful word, especially of the, you know, the cover art of Pulp Fiction, which I found is very, very interesting. And it's something, you know, separate from, in a way, from the work of the writers. It's an art by itself. And I really love it because I have all, you know, also an experience as an illustrator of comic books. So I'm very interested in this kind of art. And I really appreciate the exhibition we have here. I think you know it's amazing. It's amazing show. You know, it's an amazing thing to deal with that kind of heritage, of that kind of imaginary thing.
Et justement, pour parler de l'art de la couverture, les couvertures de pulps étaient souvent criardes, racoleuses, parfois même un peu provocantes. Et je regardais l'état de l'édition de la couverture actuelle, et je me posais la question, quelle magie est-ce qu'on a perdu par rapport à ces couvertures-là qui provoquent un espèce d'électrochoc et, des couvertures plus consensuelles que l'on pourrait trouver maintenant.
Well, I think it was definitely necessary for the magazines to stand out on the newsstands, and there was a Darwinian battle going on. They needed to fight to survive. You have some of the coolest covers ever with things like the Margaret Brundage was her name, the one who did those Weird Tales covers that were incredibly, practically softcore pornography. Whereas the other side, you had people like Frank R. Paul doing these glorious futurescapes. You know, the weirdness of... I saw Cloud Atlas, the movie, the other week, and was looking at this beautiful, futuristic... wonderful futuristic Korea that they've got, the new neo-soul, and thinking it's basically straight out of Frank R. Paul. It's just the same ideas of these future cities. But I think it's more, for me at least, it's much more than the covers. For me, it's the fact that all of the stories were illustrated, and you were dealing with something... There's a sort of weird proto-comics thing going on. Virgil Finlay, with his beautiful fine stippling, wasn't really somebody you wanted to put on a cover. He didn't do a lot of covers, and I don't think he would have sold covers. But there's something heart-stopping about coming across the right Virgil Finlay illustration in the right place. I was talking about Unknown Worlds. Ed Cartier, almost forgotten illustration, but a wonderful mixture of horror and humor, somebody who was just absolutely fantastic. In later years, one of the great cover artists, probably the last of the great cover artists who also was fantastic inside, was Frank Kelly Frias. Kelly Frias, who was, again, you'd read an Eric Frank Russell story, and in my head, all Eric Frank Russell stories, all of the characters look like they were drawn by Kelly Frias. There is that glorious synesthesia, in the same way that you get the synesthesia of comics, where you are taking the prose and the picture and building it up into something else. And I guess that's one of the reasons why pulps are not respectable, but for me they were also one of the great things about pulps, was the covers and the illustrations.
Bon, je veux bien parler de couverture, effectivement, en faisant des couvertures depuis 25 ans maintenant pour les collections populaires. Déjà pour moi le dessin, je pense que la nécessité de la couverture et l'illustration par rapport à la science-fiction, c'était rendre crédible ce qui peut ne pas l'être ou ce qui peut être mal perçu par juste un texte. Il y a Philippe Monchu qui se promène par exemple discrètement dans la salle, et c'est pas, je pense pas que ce soit lui qui me contredise sur le fait que le dessin va permettre de rendre de montrer la crédibilité de la construction du monde décrit par l'auteur quel qu'il soit. Alors je vais essayer de ne pas rebondir sur ce que vient de dire Neil, à savoir que les couvertures ne se seraient pas vendues sans le texte, parce que bon, peut-être que là-dessus on ne serait pas d'accord, mais n'empêche que les images existent quand même par elles-mêmes, et que quoi qu'on en dise ensuite les éditeurs, parce que ça aussi c'est des discussions qu'on a quand même régulièrement, quoi qu'on en dise, je pense que qui que ce soit qui s'est intéressé à la science-fiction, ou à l'imaginaire, entre guillemets, et rentrer dans le texte par l'image, en fait. Et du coup, c'est quand même c'est des couvertures qui, quand on les voit défiler, ont créé vraiment les artefacts de la science-fiction d'aujourd'hui encore. On ne sort pas de l'archétype du martien qui a été mis en scène par ces illustrateurs-là dans ces années-là. Et je trouve que c'est vraiment une influence par le simple canal visuel, c'est une influence qui a duré et qui dure encore et dont on n'est pas encore sorti, quoi. Après, bon, effectivement, on a quand même perdu en couleur aujourd'hui sur les couvertures, parce que Étienne, tu parlais des couvertures actuelles. C'est vrai qu'elles me font un peu plus rêver quand je les vois défiler aujourd'hui que ce que l'on voit sur une librairie à l'heure actuelle. Il y a une espèce d'uniformité qui s'est installée. On en parlait récemment avec des illustrateurs qui ont eu quelques déboires avec quelques éditeurs, où on se rend compte que si l'illustrateur ne fait pas, entre guillemets, comme le mainstream, ça va pas fonctionner, quoi, en fait. Donc ça, c'est un petit peu dommage, quoi, parce que je pense peut-être qu'il y avait quand même un peu plus de prise de risque à l'époque.
Je sais pas s'il y avait plus de prise de risque. En fait, j'ai l'impression que c'est plus varié aujourd'hui, ou simplement que la littérature populaire telle qu'elle existait a disparu en tant que telle. Mais ce qui est marrant, c'est qu'à l'époque, les couvertures étaient jugées horribles, quand même. À peu près tout le monde les dénigrait et les pulps étaient vendus à côté des revues pornographiques, enfin c'était caché, quoi. Et c'est 20 ans après que on a considéré que ça avait du charme, tout comme les couvertures de Branton des années 50 étaient tout le monde s'en fichait, quoi. Et c'est après que ça s'est mis à prendre de la valeur, y compris esthétique. Mais à l'époque, c'était pas le cas. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, les horribles couvertures qu'on voit en bitlite qui ressemblent à des montages photos bas de gamme, ce sera peut-être probablement considéré dans 25 ans comme ayant un charme incroyable. Voilà. Mais dans les années 70, pour moi, c'est la période que je préfère, hein, les années 70 dans l'illustration SF. À l'époque, j'ai relu un magazine critique de l'époque où c'était vers 75, où un critique se plaignait du caractère très froid et sans charme des couvertures à l'aérographe de l'école Chris Foss, etc. Et moi, c'est une période que j'adore en illustration SF, mais elle pouvait être très mal considérée, quoi.
But there are bad covers from the 70s, of bad photo covers that were horrible then and are horrible now. They may have the charm of finding a 1970s soft porn magazine, and you're going, well, look at the carpets, look at the curtains, oh my God, the people. But I don't think that bad Photoshop covers are ever going to be things that people in the future go, oh, look at those lovely people in 2010 with their bad Photoshop. But I could be wrong.
Espérons-le.
Yes, it's right. We cannot say if this kind of cover are horrible or are beautiful. A friend of mine, you know, a Chinese friend of mine, when he was asked about the French Revolution, what do you think about the French Revolution? He say, oh, it's too soon to tell. So I think that with this kind of art, it's the same thing. But, you know, I would like something, I would like to say something about the technique of this artist, for instance, like the art of a Virgin Finlay, which is not, you know, low art because they use, for instance, in the color covers, use the egg tempera, which is a very sophisticated technique invented in the medieval, a technique very, very difficult to use. Use artists like Raffaello in the 15th century. And, you know, the viscosity of the paint can, have the artist able to go very, you know, precise in the details and give up a big sense of big feeling of depth of the images. He uses also a very complex and long technique in his black and white drawing because he uses a lithograph pen and to create a photographic effect. He did the image point by point, and he cleaned the point of the pen for every single point. So it was a very long work. So we can say that it's a low art, but, you know, in terms of realization, it was a real art.
And I think that the definitely from what I've read, the people who were being illustrated by Virgil Finlay were very proud to be illustrated by Virgil Finlay or Ed Cartier or some of these guys who were the greats. I wonder, and I would throw this out to anybody here, if one of the reasons why some of the covers that we're getting up on these walls, up on the screen, were so good, was because they had size. They were. We forget about the pulps, that they were bigger than our hardback books. They were a little bit smaller than magazine covers, but there was a lot of room to fill. And it's. I wonder if it's the difference between album art and CD art, where CD art, you don't want a beautiful painting. You just want a small image that will be remembered because that's the only space you've got.
Je me posais la question de ce qu'était devenu l'héritage des pulps, parce que ce sont des écrivains qui travaillaient très vite, avec des textes qui n'étaient pas toujours totalement terminés d'un point de vue littéraire, mais qui ont créé toute une série d'archétypes qui demeurent et qui sont toujours vivaces maintenant. Que ce soit les princesses perdues au fond de l'espace, les savants fous, les preuves aventuriers, etc. Toute une matière de littérature populaire qui, même si on ne les lit plus maintenant, leur création persiste. Est-ce que vous avez déjà eu conscience volontairement de travailler cette matière-là ?
I love all of that stuff. I don't know that I do it very well, and whenever I try and do something that's meant to be straightforward, pulpy adventure, I always go and mess it up. But I think you've got two different phenomena. I mean, it's fascinating looking at the pulps of the Great Depression. Because especially in America, in the Great Depression, you had people who were writing to eat. They were typing in order to eat. They had no other source of income, but if they wrote, you know, two stories a week, they could pay their rent and they could eat. And you look at the Futurians, you look at all of those guys, there were people writing stories under pseudonyms so they could have more than one story in a magazine. And I think you have that as a phenomena of people who are getting paid by the word. But that starts to fade away after the Second World War and the rise of the novel. The point where people are they're no longer being paid by the word, they're being paid by the book. And when quality becomes more important. I think comics writing is very similar in some ways to pulp writing, in that the magazine is going to be coming out, the periodical is going to come out, it will have your name on it. You had better write the story, otherwise it won't be there. But there are so many differences as well.
Etienne, moi je te remercie de parler des héritiers quand même, parce que j'étais en train de me dire qu'on allait parler uniquement des illustrateurs morts, par exemple. Du point de vue des illustrations, on a, pour reprendre ce que disait Thomas sur la qualité du travail, en fait, moi, il y a des illustrateurs qui sont encore vivants, comme Greg Hildebrand, par exemple, ou Jim Burns. Plus près de nous, par exemple, assis au premier rang, on a Manchu, qui travaille avec la même qualité, le même détachement, disons, vis-à-vis, entre guillemets, de la rentabilité, puisque Neil parlait du fait de pouvoir payer son loyer. Il y a beaucoup, encore aujourd'hui, des illustrateurs qui amènent cette qualité-là sur le travail et sur la durée du travail. Quand on voit les couvertures de Manchu, par exemple, pour l'aérospatiale qu'on a sur l'exposition ici, par exemple, on se rend bien compte qu'il ne peut pas travailler uniquement en se demandant combien de temps je vais pouvoir passer sur cette couverture-là. C'est le sujet lui-même qui va le porter. Et tout à l'heure, tu parlais des années 70. Les années 70-80, c'était quand même les Paper Tiger, par exemple, avec les albums de Jim Burns, les albums de toute une génération d'illustrateurs aussi qui ont imprimé vraiment l'imaginaire de tous les lecteurs de science-fiction. Alors c'était encore coloré, c'était encore, je dirais, peut-être un petit peu kitsch, on dira, mais aujourd'hui, je trouve, pour revenir sur l'histoire de l'homogénéité des couvertures, en fait, l'apport de Photoshop, par exemple, dans les années 80-90, il y a eu beaucoup d'apports en photos retravaillées, photos retouchées, mélange de photos, un petit peu comme si on troublait l'eau pour la faire croire profonde, un petit peu. Et aujourd'hui, on est revenu à quelque chose d'un travail un petit peu plus minutieux. Il y a quand même des illustrateurs en France, par exemple, comme Alexis Briclot, qui travaille énormément le numérique. Il y a Benjamin Carré qui est à Nantes, ou Nicolas Fructus, par exemple, l'auteur de l'affiche de cette année, qui ont un vrai, disons, intérêt d'artisan sur le dessin, en fait. Le fait de retravailler incessamment la couverture. Je ne sais pas s'ils auront le même impact qu'ont eu les pulps sur une génération, puisqu'on en parle 50 ans après, mais je le souhaite.
J'allais un peu partager ce même point de vue. Alors c'est vrai que c'est un peu loin les pulps, donc je ne sais pas si on peut vraiment parler d'héritage conscient, en tout cas, parce que on n'a tout simplement pas vécu la chose. Au niveau littéraire, en France, on avait déjà ce côté artisanal, puisqu'on sait qu'en France, on a eu longtemps une sorte de complexe d'être un auteur professionnel et donc vivant de sa plume, c'était quelque chose d'un peu honteux. C'est plus le cas aujourd'hui, je pense. Et donc je pense que cet héritage-là, il a fini par être accepté, je pense. Mais on avait déjà la littérature de science et voyage. On avait un peu l'équivalent, en fait, en France, et puis des grands feuilletonistes du 19e siècle et du début du 20e qui étaient, en fait, des auteurs de pulp, finalement, qui étaient payés à la ligne. Voilà, donc on avait déjà, je pense, cet héritage. Donc je pense pas qu'on ait appris quelque chose à ce niveau-là. Je pense que c'est plutôt dans le traitement, dans des nouveaux thèmes, en fait, qui nous sont arrivés des États-Unis et une nouvelle façon de le traiter. Mais sans doute pas sur le statut même d'écrivain, où il y avait déjà la dualité lettré populaire qui existait déjà depuis un siècle, en fait.
You know, in Italy, making a living for a writer is a problem in any case. But besides that. besides that, I think that the major thing about the popular magazines is that they create a sort of megatext for science fiction. You know, there's a big controversy about the founder of a magazine stories, Hugo Gernsback. You know, if he was a bad guy or a good guy. You know, but. You know, whatever you might think about him, the story is that magazines like Amazon Stories create a sort of vocabulary. So you have a lot of third-rate writers, but without that kind of writers, we wouldn't have that kind of vocabulary. And it's the same for the cover art, you know, because this kind of world didn't have an imaginary before than that. So we as a writer, we have a great depth with this kind of culture, I think. You know, without pulp culture, we still have fantastic literature. For instance, we will have writers like Borges or Wells, but we would not have a science fiction megatext, a science fiction vocabulary, I think.
Donc les auteurs de pulps qui auraient créé une grammaire, qui auraient grandi et qui se seraient pérennisés, et justement, qui est-ce qui l'utiliserait aujourd'hui ? Je me suis demandé qui est-ce qui, voilà, où est-ce qu'on pourrait trouver cet esprit de création débridée, cette esthétique-là. Je me suis posé la question du steampunk. Est-ce qu'on peut y retrouver un esprit pulps ?
I from where I stand, steampunk was James Blaylock, Tim Powers, and K.W. Jeter in 1985-86, and there haven't been any real steampunk since. And a lot of what people call steampunk fiction just looks like regular fiction, only people are wearing flying goggles. But I think... Okay, I think you're looking at two different things here. One is the spirit of unbridled invention, which is really the very early days of pulp, while people are trying to figure out what this thing is about. And the other is what the pulps then become, because the pulps get very good very quickly. It becomes Darwinian. There is survival of the fittest. The people who can't write fall away. The people who can't write well fall away because people like Robert Heinlein, like Isaac Asimov, like Fritz Leiber, like Ray Bradbury, have come in and raised the bar. And sometimes some of them, like Heinlein and Bradbury, actually got out of the pulps. They were so good, they were getting published in what were called the slicks, which were the things on the nice slick paper, like Collier's or Harper's, or these nice fancy magazines. But I think what you actually had during that period of time is a lineage of science fiction and fantasy that you can actually follow. You can follow trains of thought. Because of the immediacy of pulps, you're handing in a story in February that's getting published in March, and somebody else is going to read that in March and write their own story almost in reply to that, and that's going to be published in June. You have a really fast turnaround, and you have a genre in conversation with itself. And I think the feeling I always get is that conversation really went on until the late 60s. And then the energy had gone out of the magazines, and it was in books, and everything gets slower. Things, you don't have that sense of immediate turnaround. You don't get the sense, if somebody writes a really smart time travel story, and a bunch of other writers go, oh my God, what a great time travel story, but he didn't do that, so I'm going to go in and do that. And then a bunch of other people go in and go, whoa, he didn't do that, but he can do that. And they're building. And that sense of conversation, I think, keeps going through until New Worlds and the New Wave movement, where you have Michael Moorcock editing, you have people like Ballard, Spinrad, this whole new movement. You have the Zelaznys, you have the Ellisons, you have the Delaneys in the US, and the feeling that something is still vital and bubbling. And I think once you hit the 70s, it starts happening in books. The era of it happening in magazines is over.
Je rebondirai deux secondes juste sur ce que dit Link par rapport à ta question au départ, effectivement, de ramener peut-être le pulp, enfin la création du pulp, c'est l'énergie du pulp dans le steampunk. Là où ça, alors sans être un expert du steampunk, mais je trouve qu'effectivement tout ce qui pouvait être créé par cette énergie, cette urgence de parution, dans les textes concernés par les pulps. Je ne retrouve pas ça, moi, dans l'esprit global du steampunk, sans rentrer dans le détail, ni sans en être expert. Mais ce qui me gêne, moi, dans le steampunk, en fait, c'est un courant inscrit dans une époque, en fait, qui est a priori passée. Et donc, je trouve que par cette essence même, ça n'a pas la même énergie, quoi. Ça n'a pas la même urgence, ça n'a pas la même spontanéité que ce qu'on pouvait trouver à cette époque-là. Alors, bon, ça, c'est juste repartir sur ta question. En même temps, tout à l'heure, Laurent Jeunefort a évoqué le fleuve noir, par exemple. Et moi, quand je vois le pulp, c'est quand je pense au fleuve noir, j'ai l'impression d'avoir vécu la fin du fleuve noir anticipation comme la fin du pulp, en fait. Parce que c'était la collection populaire par excellence, c'était la collection où il y avait 5 à 8 titres inédits tous les mois. J'avais l'impression qu'il y avait quand même des espèces d'ovnis qui pouvaient n'être parus que au fleuve noir anticipation, et d'ailleurs ça a été le cas, on est d'accord. Et je pense que l'avènement des gros formats, par exemple, puisque à peu près tous les éditeurs se sont ensuite engouffrés sur le moyen et grand format, dû, disons, par une contrainte économique. Aujourd'hui, il y a peut-être plus d'enjeux à sortir un livre, on y réfléchit un petit peu plus qu'à l'époque. Mais je trouve que c'est dommage, justement, d'avoir enterré ce type d'énergie, ce type de vivier foisonnant, des fois un peu vain, parce que c'est vrai que sur 8 titres ou 5 titres inédits tous les mois, il ne pouvait pas y avoir forcément que de la qualité. Mais je trouve que c'est dommage de l'avoir enterré, disons, au profit de la rentabilité, parce que le manuscrit étant payé le même... Enfin, on ne va pas rentrer dans le détail, mais j'imagine que le passage du petit format au moyen format, c'est la différence de prix de vente, quoi.
Mais c'est vrai que le je crois que peut-être que le seul mouvement comparable à ce qui s'est passé dans les pulps, et notamment ce dialogue et cet écrémage, ça a été le manga japonais dans les années 70, en fait, où on a eu une culture qui s'est mondiale, enfin qui a influencé le monde entier dans le domaine de la BD. Comme le pulp a influencé à partir de 45 en France et dans le monde quand les Américains sont arrivés avec le jazz, le chewing-gum, etc. Mais ça, ça a eu une influence réellement mondiale. Et comme le manga a eu une influence mondiale tout en restant extrêmement populaire. Et c'est vrai que je connais que ces deux cas dans l'histoire moderne de l'art. Personnellement. Et tu demandais au niveau des... Pour moi, peut-être ce que je retrouve... moi, je trouve que le plus bel hommage au pulp, j'ai trouvé dans la série Futurama de Matt Groening, qui, pour moi, résume parfaitement l'amour qu'on peut avoir pour cette culture, en fait. Voilà. Par les yeux d'un adulte.
I basically agree with you. Probably the biggest phenomenon after the pulp is the Japanese manga. Probably nowadays everything is more fragmented, so it's very difficult to find a real big tendency. But you can obviously steampunk was one of them. But to me, what is interesting in science fiction now is the way it's dealing more and more with the idea of history. Or, before it was just science. Now, you have many science fiction working also on history, which is also an heritage of writers like Heinlein, for instance. And we have a beautiful and interesting works like the Neil Stephenson Baroque Cycle, which is not exactly science fiction, but it's part of that kind of culture, and is an amazing result to me.
Dans ce cas-là, cet héritage des pulps, où est-ce qu'on peut le chercher, cette énergie? Est-ce qu'on peut la chercher au cinéma, dans les séries télévisées? Où ce vivier créatif est-il passé?
I don't see a lot of it in movies. And when I go and see movies that are based on the pulps, I see even less of it. The John Carter of Mars film lacked everything that was great about the pulps was gone. But I think that if what you look at and respond to in the pulps is smart, instant storytelling, is good illustration, is stuff that feels relevant and there right now, I think that's everywhere. I think it's in television, I think it's in movies, I think it's in comics, I think it's in novels, I think it's in short stories, I think it's out there. If what you're saying is, where is that specific creative burst of people discovering a genre, people going from the scientific romances of Jules Verne and H.G. Wells into, over a period of about 15 years, something that we would recognize as modern science fiction, by way of a lot of tropes, by way of a lot of very, very bad writing. I don't see that around right now, but I don't think it's a bad thing that that's not around right now. And I'm sure that something like that is around right now and we're not seeing it. It may be out there in slash fiction on the web. It may be out there in computer games. It may be out there in something where people are right now doing something that isn't very good, but in 2050 they'll look back and go, those people who were playing, you know, with they were text messaging each other. Didn't they see when they were sending each other text messages that they were building up this giant hyperfiction? And obviously we don't right now because we're doing it.
Moi, sur ce qui est de l'énergie globale du pulp, effectivement, moi, je le retrouve plus aujourd'hui sur le net, sur des web-séries, des choses comme ça, quoi. En fait, le fait de pouvoir travailler, de faire une création complètement, je dirais presque détachée d'une rentabilité ou détachée d'un consensus, avec une énergie directe, presque du créateur au consommateur, en fait. C'est un petit peu comme dans les années 70-80 avec Metal Hurlant en France, quoi. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a ce qu'était le support pulp à l'époque. Qui était peut-être en avance par rapport à une culture populaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le livre est en retard par rapport à la culture populaire, en fait. Puisque la culture populaire, j'ai l'impression qu'elle se fait aujourd'hui en dehors du livre. Et c'est dommage, quoi. Et on le voit bien. Enfin, il y a des questionnements d'édition. On voit bien que tout le monde est un petit peu frileux parce qu'on se fait un peu dépasser par ce qui se passe autour, quoi.
Oui, ben en fait c'est dur à dire effectivement parce qu'on est en plein dedans. Non, mais c'est peut-être il y a des foyers, enfin il y a des flamboiements récemment. Le fait, par exemple, que et c'est peut-être ce qui s'est passé pour le pulp. Peut-être qu'à un moment, le début du XXe siècle, c'était la démocratisation de l'impression de masse qui a permis ou des couvertures, je ne sais pas, qui a peut-être créé un nouveau chenal, un nouveau média qui a permis, et en fait fallait remplir, et voilà quoi. Des fois ça suffit. Et ce qui se passe dans le jeu vidéo depuis 3-4 ans, c'est un peu ça, c'est-à-dire la création des App Store où tout le monde peut venir vendre son application à n'importe qui, et ça a réellement créé un mouvement de nouveaux jeux vidéo fait à la maison, comme au tout début de l'ère des jeux informatiques où une personne pouvait révolutionner tout un secteur, et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui est en train de se passer toujours. Donc ouais, faut pas désespérer. Je pense que c'est aussi la technique, les nouvelles contingences techniques, les nouveaux chenaux de communication qui créent aussi les conditions pour que, alors quand ça coïncide avec l'évolution d'une culture, bah hop, des fois ça fait des flamboiements, et c'est ce qui se passe sur le jeu vidéo depuis vraiment très très peu d'années là. Donc pourquoi pas. Mais les séries télé aussi, hein, y a des trucs vachement bien.
Myself, I think that basically now the pulp culture is a vintage quotation. A few days ago, I saw the remake of the Total Recall movie, and the main character at one point is reading a pulp novel. It's a, you know, it's a common thing that you can find in movies and even in novels, in graphic novels, quotation from vintage pulp culture. But this is not real pulp culture. I think that what made pulp culture really pulp was the production, was the number, the hundreds and hundreds magazine issued. You know, when you have a big production, you have a big universe. Maybe you have, many bad things, but you have a universe. So that's why I think, because the manga, world probably is the only universe similar in certain ways to the pulp culture, because it's a big production. You have many mangas produced every month. So, the question is if we are going to have another pop culture produced in so wide way.
Bien. Je pense qu'il est temps de vous donner la parole. Alors, est-ce qu'il y en aurait parmi vous qui souhaiteriez poser une question ? Hop.
Oui, bonjour. Je voudrais juste savoir, est-ce qu'il y avait à l'époque des comics de cette époque, est-ce qu'il y avait un esprit pulp dans les comics ? Et si oui, est-ce qu'il a disparu aujourd'hui dans l'entreprise des comics ?
Alors, qui veut répondre?
Well, there was a huge overlap between comics and pulp for a start. Siegel and Shuster did their first Superman work for a fanzine after the pulps rejected it, and then wound up turning it into a comic strip and taking it, having submitted it as a newspaper strip, eventually cutting that up and selling it to Action Comics. Julie Schwartz, who, when I met him in the 1980s, had just retired after about 40, 50 years working at DC Comics, had been an agent, a young agent in the days of the pulps. He'd been H.P. Lovecraft's agent and Ray Bradbury's agent, and these guys had sold stories to the original Weird Tales. And, there were a lot of the people, Gardner Fox, Edmund Hamilton, who wrote a lot of those early stories, were pulp writers. So I think there was definitely a lot of crossbreeding, interbreeding, and people who, when the pulps got better, couldn't make a living in the pulps, fled into comics. Where the quality control was not quite as high, where the story was more important than the way that the story was told. Where that takes us to now, I have no idea.
Une autre question?
Moi, juste pour rebondir sur cette histoire de création, c'était multiplier les supports et vous retrouverez du pulp, je pense, quoi, parce que on perd l'énergie du pulp par le regroupement des différentes productions.
Je crois que j'avais lu dans je ne sais plus quel magazine que c'était aussi dans les pulps qui avaient eu les premiers courriers des lecteurs et qui du coup permettaient vraiment une communication entre auteurs et lecteurs. Est-ce qu'aujourd'hui on a encore cette communication qui persiste par exemple à travers les blogs ou tout ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est perdu?
On peut ajouter Twitter.
Oh, I think, I mean, the other thing that the blogs gave us at bottom is this. This comes from the pulps. This comes from readers in the letter columns of those first amazing stories actually writing to each other, because their names and addresses were printed, and they started communicating to each other. And they decided to have conventions. And the first conventions, there will be 10, 15 people. That was where fanzines came from. So it wasn't just the dialogue between the fiction and the fictioneers and the people making the stories and the readers that comes from pulp. It's fandom. Absolutely comes from pulp. And everything that has grown up on fandom since. And that energy, I think, is absolutely the same. You read the accounts of 1930s fandom, It's the same as 1960s fandom. It's the same as 2012 fandom. The same internecine feuds, the same fallings out, the same people sleeping with other people and then not talking to each other. It's all the same, and it's glorious.
It's not related so much to the question, but it's a funny story about the first science fiction convention held in Manhattan in 1939. During that convention, they gave an auction of the cover art, original cover art of the artists like Virgin Finlay and Frank Paul and the others. You know, it seems that, you know, they started to do the auction and they offered this painting for $50. No one bid, so okay, have it for 40, no one bid, 30, 10, 5 cents, you know, and apparently the bidder, the auctioneer, threw the original work in the air through the public, and you know, the artwork came to the people who, you know, grabbed first. So now, if you think that that kind of art, you know, you can sell for $1,000, that was, you know, they say, I don't know if it's true, but you know, it's an anecdote that I heard.
Une autre question?
Oui, bonjour. Est-ce que vous ne croyez pas que le pulp a été l'une des toutes premières cultures pop, au sens où il s'agirait d'une culture plutôt de jeunes, avec un fort rejet du monde, on va dire, d'une grande part du monde adulte, à la fois une forte fascination et une forte répulsion. Hein, cette culture un petit peu comme a pu l'être le rock dans les années 60, c'est-à-dire vraiment une... Est-ce que ça n'a pas été l'une des toutes premières? Toute première culture pop associée à un média justement qui était parmi les tout premiers à l'époque, comme il y en aura d'autres derrière. Et est-ce que vous ne croyez pas à ce niveau-là que justement la logique du média fait que la culture pop est une sorte de virus qui évolue de média en média et que là c'était le moment du papier?
Oui, sans doute. Peut-être qu'aux États-Unis c'est resté quand même underground, parce que dans le côté pop il y a un côté où on peut montrer les choses. Au grand jour où ça s'étale, ça s'étalait pas tant que ça. Maintenant, oui, enfin en tout cas il y avait la masse de... Et sur le côté rejet, je sais pas trop. Une partie quand même était véhiculait des clichés qui étaient pas vraiment forcément modernes pour l'époque. Sûrement en partie. Maintenant, est-ce que ça se définissait par ça? Je sais pas vraiment.
I don't see any of those pulps as having been aimed at children. We've been talking here, and the images up on the screen are of Galaxy, of Planet Stories, of Amazing Stories, of Astounding. But you have to remember that the pulps also covered detective stories, and you know, Chandler, Raymond Chandler's first stories were being published in the pulps. So were Dashiell Hammett. They were over in the detective pulps. You had cowboy pulps. You had all sorts of pulp magazines. And they weren't being aimed at kids. They were being aimed at people who want stories. They were much closer to the, you know, the shows that you watch that go on television at 8:30 at night. They definitely weren't the 5 o'clock in the afternoon ones, I think.
Bien. Je crois qu'il est temps de clôturer là, messieurs, de vous remercier de votre temps et de vous souhaiter une bonne suite de festivals.